Chapitre 21. Debout, les mains menottées dans le dos, j'ai écouté le procureur lire les chefs d'accusation. D'après lui, j'avais délibérément tiré sur mon mari. Il y avait par ailleurs des raisons de penser que j'avais également tué ma fille. Pour l'heure, il demandait mon inculpation pour assassinat, et vu la gravité des charges pesant contre moi, ma détention sans possibilité de caution. Mon avocat Cargill a fait retentir ses protestations. J'étais une policière bien sous tout rapport, qui avait derrière elle une brillante et longue carrière, 4 ans, dans la police d'État. Le procureur n'avait pas de preuves suffisantes contre moi et il était grotesque d'imaginer qu'une policière aussi respectée et une mère aussi dévouée que moi s'en serait pris à toute sa famille. Le procureur a fait observer que l'analyse balistique avait déjà démontré que les balles retrouvées dans la poitrine de mon mari venaient de mon six-hour de service. Cargill a fait valoir mon œil au beurre noir, mon visage fracturé et ma commotion cérébrale. Manifestement, mon geste avait été provoqué. Le procureur a répliqué que l'argument aurait pu tenir si le corps de mon mari n'avait pas été congelé après sa mort. La nouvelle a manifestement laissé le juge perplexe, qui m'a lancé un regard interloqué. « Bienvenue dans mon monde », ai-je eu envie de lui dire. Mais je n'ai rien dit, rien montré, parce que même le plus petit geste, qu'il soit de bonheur, de colère ou de tristesse, m'aurait conduite au même point. L'hystérie. Sophie, Sophie, Sophie. J'ai perdu mes dents de devant, mais pourtant, maman. J'allais me mettre à chanter, et ensuite j'allais tout bonnement me mettre à hurler parce que c'est ce qu'une mère a envie de faire quand elle écarte les couvertures et découvre le lit de son enfant vide. Elle a envie de hurler, sauf que moi, je n'avais jamais eu la possibilité de le faire. Il y avait eu du bruit au rez-de-chaussée. Sophie ! M'étais-je dit une nouvelle fois, et j'étais précipitamment sortie de la chambre, j'avais couru dans les escaliers, filé droit à la cuisine, et là, j'avais trouvé mon mari, avec un homme qui braquait un pistolet sur sa tempe.
« Qui tu aimes ?»
avait-il demandé. Et cette simple question avait posé mon dilemme. Je pouvais obéir et sauver ma fille, ou alors je pouvais résister et perdre toute ma famille. Brian me fixait, et il se servait de son regard pour me dire ce que je devais faire, parce que sombre, raté ou pas, il était encore mon mari et surtout, il était le père de Sophie, le seul homme qu'elle ait jamais appelé papa. Il l'aimait. Malgré tous ses défauts, il nous aimait tous les deux. C'est drôle les choses qu'on apprécie vraiment que quand il est trop tard. J'avais posé mon ceinturon sur la table de cuisine. Et l'homme s'était avancé, s'était emparé de mon six-hour dans son étui et avait tiré 3 balles dans la poitrine de Brian.
Boum, boum, boum.
Mon mari était mort. Ma fille avait disparu. Et moi, la policière de métier, j'étais là, complètement sous le choc, avec ce hurlement toujours coincé dans la poitrine. Un marteau de juge s'est abattu. La brusque détonation m'a fait sursauter au garde-à-vous. Mes yeux se sont tournés d'instinct vers la pendule, 14h43. Est-ce que l'heure avait encore une importance? J'espérais que oui.
La caution est fixée à $1 million.
A sèchement annoncé le juge. Le procureur a souri. Cargill grimaçait.
Tiens le coup. A marmonné Shane derrière moi. Ça va aller, tiens le coup.
Je ne me suis même pas donné la peine de répondre à ces banalités insignifiantes. Bien sûr, le syndicat de police avait de l'argent de côté en cas de caution à payer, de même qu'il aidait à prendre un avocat tout agent qui avait maille à partir avec la justice. Malheureusement, le pécule du syndicat était loin de se monter à $1 million. Réunir une telle somme prendrait du temps, sans compter que cela devrait faire l'objet d'un vote. Donc j'étais sans doute mal barrée. Comme si le syndicat allait s'engager davantage aux côtés d'une policière accusée d'avoir assassiné mari et enfant. Comme si mes 1600 collègues masculins risquaient de voter oui. Je n'ai rien dit, rien montré, parce que le hurlement me remontait dans la gorge. Une sensation d'oppression dans ma poitrine qui grandissait inexorablement. J'aurais voulu avoir le bouton bleu, j'aurais voulu pouvoir le conserver parce que, paradoxalement, le tenir m'avait permis de rester saine d'esprit. Ce bouton représentait Sophie. Il représentait le fait qu'elle était là, quelque part, et qu'il me suffisait de la retrouver. Le gardien du tribunal s'est approché et m'a prise par le coude. Il m'a brusquement tirée vers l'avant, et j'ai commencé à marcher un pied devant l'autre, parce que c'était ce qu'il fallait faire, ce qu'on attendait de moi. Cargill était à mes côtés. « Famille ? » m'a-t-il demandé posément. Je savais ce qu'il voulait dire. Est-ce que j'avais une famille qui pourrait payer la caution ? J'ai pensé à mon père, senti le hurlement monter de ma poitrine dans ma gorge. J'ai fait signe que non.
« Je vais discuter avec Shane qu'on expose votre affaire au syndicat. »
m'a-t-il dit, mais je devinais déjà son scepticisme. Je me suis souvenu de mes supérieurs qui ne m'avaient pas regardé dans les yeux quand j'étais passée dans ce couloir d'hôpital. La marche de la honte. La première d'une longue série.
« Je peux demander un régime spécial à la prison. »
expliquait Cargill en parlant vite maintenant, car nous approchions de la porte de la cellule de détention d'où je serais officiellement transférée.
« Vous êtes fonctionnaire de police, on vous accordera l'isolement si vous le souhaitez. »
J'ai refusé. Je connaissais la maison d'arrêt de ce Fall County. Le quartier d'isolement était le plus déprimant de tous. J'y aurais bénéficié d'une cellule individuelle, mais j'y aurais aussi été cloîtrée 23 heures sur 24. Aucun privilège du style laisser passer pour la salle de gym ou pour une heure en bibliothèque. Aucune salle commune où trônerait une télé capricieuse ou le plus vieux vélo d'appartement du monde pour tuer le temps. Marrant. Les choses qui allaient devenir des objets de luxe à mes yeux.
« Examen médical », a-t-il insisté.
Il voulait dire que je pouvais aussi demander des soins médicaux, ce qui me vaudrait d'aller à l'infirmerie. « Avec tous les autres psychopathes », ai-je grommelé. La dernière fois que j'avais fait un tour dans cette prison, tous les gueulards étaient à l'unité de soins, où ils hurlaient à toute heure du jour et de la nuit, sur eux-mêmes, sur les surveillants, sur les autres détenus. N'importe quoi, j'imagine, pour ne plus entendre ces voix dans leur tête. Nous étions arrivés devant la cellule et le gardien a lancé à Cargill un regard éloquent. Un instant, mon défenseur exténué a hésité. Il m'a regardé avec quelque chose comme de la compassion. Et j'aurais préféré qu'il s'abstienne, parce que cela ne servait qu'à faire monter le hurlement de ma gorge vers ma bouche caverneuse. J'ai dû pincer les lèvres, serrer les dents pour l'empêcher de s'échapper. J'étais forte, j'étais solide. Il n'y avait là rien que je n'avais déjà vu. D'habitude, j'étais de l'autre côté des barreaux, simple détail. Cargill a pris mes mains menottées. Il a serré mes doigts.
« Faites-moi demander Tessa, » a-t-il murmuré. « La loi vous donne le droit de consulter votre avocat à n'importe quel moment. Appelez, je viendrai. »
Et il est parti. La porte de la cellule s'est ouverte. J'y suis entrée d'un pas mal assuré et j'ai rejoint cinq autres femmes au visage aussi pâle et détaché que le mien. Alors que je les regardais, l'une d'elles s'est dirigée vers les toilettes en inox, a remonté sa mini-jupe en lycra, noire, et uriné.
« Qu'est-ce que tu regardes, connasse ? »
a-t-elle demandé dans un bâillement. La porte de la cellule s'est refermée en claquant derrière moi. Que je vous explique comment se danse la gigue de South Bay. Pour exécuter cette vénérable chorégraphie lors de son transfèrement, chaque détenu doit donner le bras à ses deux voisines et joindre les mains au niveau de la taille où on lui passera les menottes. Une fois que chaque détenu est ainsi tressé avec ses voisines, on lui entrave aussi les chevilles et une chaîne de six femmes peut rejoindre qu'à un cas le fourgon du shérif. Les femmes s'assoient d'un côté du fourgon, les hommes de l'autre. Une cloison de plexiglas transparent les sépare. La blonde décolorée assise à côté de moi a passé les trois quarts du trajet à faire des mouvements de langue suggestifs. Le noir de 120 kilos, couvert de tatouages assis en face de nous, l'encourageait des hanches. Encore 3 minutes, et je pense qu'ils auraient conclu leur petite affaire. Malheureusement pour eux, nous sommes arrivés à la maison d'arrêt. Le fourgon est entré dans la cour. Une lourde porte de garage métallique est descendue et s'est verrouillée, ce qui rendait les lieux totalement hermétiques. Ensuite, les portes du véhicule se sont enfin ouvertes. Les hommes ont débarqué les premiers, sortant du fourgon à la queue leu-leu pour entrer dans le sas. Au bout de quelques instants, notre tour est venu. Le plus difficile était de descendre du fourgon, je sentais la pression de mes compagnes. Il ne fallait ni trébucher ni tomber, car j'aurais entraîné toute la chaîne avec moi. Le fait que j'étais blanche et que je portais des vêtements neufs suffisait déjà à me distinguer car la plupart de mes codétenus semblaient travailler dans le milieu du sexe et de la drogue. Les plus propres sur elles faisaient sans doute ça pour de l'argent, les moins ragoûtantes pour avoir leur dose. La plupart n'avaient pas dormi de la nuit et, à en juger par les diverses odeurs, elles n'avaient pas chômé. Curieusement, la femme aux cheveux orange à ma droite a plissé le nez devant mon odeur particulière d'antiseptique d'hôpital et de jean tout neuf. Tandis que voyant mon visage défoncé, la fille à ma gauche, 18-19 ans, a dit « Oh chérie, la prochaine fois donne-lui l'argent, il cognera moins fort ». Les portes se sont ouvertes. Nous sommes entrés dans le sas, les portes se sont refermées derrière nous. D'autres portes à notre gauche se sont ouvertes dans un bruit métallique. Droit devant moi, je voyais le greffe tenu par deux surveillants en uniforme bleu foncé. J'ai gardé la tête basse, de peur d'apercevoir un visage familier. Nous avons continué clopin clopant, progressant lentement, épaule contre épaule, hanche contre hanche, dans un long couloir entre des murs de béton jaune pisseux, dans l'odeur âcre qui est celle des établissements publics du monde entier, mélange de sueur, d'eau de javel et d'apathie. Nous sommes arrivés à la cellule d'attente, une autre grande cellule très semblable à celle du tribunal. Des bancs en bois le long d'un mur, des toilettes et un lavabo en métal, deux téléphones publics. Tous les appels devaient être passés en PCV, nous expliquera-t-on, et un message automatique informerait le destinataire que l'appel venait de la maison d'arrêt de Suffolk County. On nous a enlevé nos fers, le surveillant est sorti. La porte métallique s'est refermée en claquant. Et voilà. Je me suis massé les poignets, puis j'ai remarqué que j'étais la seule à faire ça. Tout le monde se mettait déjà dans la file d'attente pour téléphoner. Se préparait à appeler qui pourrait payer la caution. Je ne me suis pas mise dans la queue. Je me suis assise sur le banc en bois et j'ai regardé ces prostituées et ces dealeuses qui avaient quand même plus de gens que moi qui les aimaient. Le surveillant a appelé mon nom en premier. J'avais beau savoir que ça viendrait, j'ai connu un instant de panique. Je me suis cramponnée au bord du banc, je n'étais pas sûre d'arriver à lâcher prise. Jusque-là, j'avais tenu le choc, face à tellement de choses, mais maintenant, la mise sous écrou, l'agent Tessa Leoni allait officiellement cesser d'exister. La détenue numéro 55-66-90-21 allait prendre sa place. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Le surveillant a répété mon nom. Depuis le couloir, c'était moi qu'il regardait par la fenêtre de la porte métallique. Et j'ai su qu'il savait. Évidemment, il savait. Ils étaient en train d'écrouer une policière. Ça devait être le ragot le plus croustillant du moment. Une femme accusée d'avoir tué son mari et soupçonnée du meurtre de sa fille de 6 ans. Exactement le genre de détenu que les surveillants aiment détester. Je me suis obligée à lâcher le banc, à me lever. Se donner de la prestance, me suis-je dit avec une certaine frénésie. Ne jamais leur laisser voir qu'on transpire. Je suis arrivée à la porte. Le surveillant m'a passé les menottes et prise par le coude. Sa poigne était ferme, son visage imperturbable.
« Par ici !»
m'a-t-il dit en me tirant brutalement vers la gauche. Nous sommes retournés au greffe où j'ai subi la batterie de questions classiques, taille, poids, date de naissance, proches parents, coordonnées, adresse, numéro de téléphone, tatouage, etc. Ensuite, on m'a photographié, debout devant le mur en parpaing avec sur une pancarte un numéro qui allait être mon nouveau nom. Le produit fini devint ma nouvelle carte d'identité que je devrais en permanence garder sur moi. Retour dans le couloir, pièce suivante, où on m'a pris mes vêtements, et où j'ai dû m'accroupir complètement nue devant une policière qui inspectait mes orifices naturels avec une lampe torche. On m'a donné une tenue de prisonnière marronasse, un pantalon, une chemise. Une paire de tennis plates blanches surnommée R. Cabral, en hommage au shérif, Andrea Cabral. Et une trousse de toilette en plastique transparent. La trousse contenait une brosse à dents transparente grande comme le petit doigt, un petit déodorant transparent, un shampoing transparent et un tube de dentifrice blanc. Les produits d'hygiène étaient transparents pour qu'il soit plus difficile aux détenus de dissimuler de la drogue dans leur contenant. La brosse à dents était petite, de manière à ce qu'elle soit moins dangereuse quand elle serait inévitablement transformée en couteau. Si je désirais d'autres produits d'hygiène, disons de l'après-shampoing, de la lotion pour les mains, du baume à lèvres, il fallait les acheter à la cantine. Baume à lèvres, 1,10 $. Lotion, 2,21 $. Je pouvais aussi m'acheter de meilleures chaussures de tennis, entre 28 et 47 $. Étape suivante, l'infirmerie. L'infirmière a examiné mon œil au beurre noir, ma joue tuméfiée et mon front entaillé. Après quoi, il a fallu que je réponde au questionnaire médical d'usage pendant qu'on me vaccinait contre la tuberculose, toujours à craindre en milieu carcéral. L'infirmière s'est attardée sur l'évaluation psychiatrique, sans doute pour déterminer si j'étais le genre de femme susceptible de commettre un geste irréfléchi, par exemple, de me pendre avec mes draps vieillis par la javel. Elle a signé ma fiche médicale, puis le surveillant m'a escortée dans le couloir de béton jusqu'aux ascenseurs. Il a appuyé sur le 9, l'étage des prévenus. J'avais le choix entre l'unité 191 ou l'unité 192. J'ai eu la 192. Les unités des prévenus pouvaient accueillir de 60 à 80 femmes en même temps. 16 cellules par unité, 2 à 3 femmes par cellule. On m'a conduite à une cellule où il n'y avait qu'une seule autre détenue. Elle s'appelait Erika Reed. Elle dormait sur la couchette du haut, avait disposé ses effets personnels sur celle du bas. Je n'avais qu'à m'installer confortablement sur la table en bois qui tenait aussi lieu de bureau. À la seconde où la porte métallique s'est refermée derrière moi, Erika s'est mise à ronger ses ongles noirâtres, découvrant une rangée de dents de la même couleur. Accro à la mette. Ce qui expliquait son visage pâle et décharné, ses cheveux bruns en baguette de tambour.
« Vous êtes la flic ?» m'a-t-elle immédiatement demandé tout excitée. « Tout le monde dit qu'on va avoir une flic. J'espère trop que c'est vous !»
C'est là que j'ai su que j'étais encore plus mal barrée que je ne le croyais.